Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Corentin Mansois, Maïder Gérard, Marguerite Caton, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Alexandre Dang. Troisième volet de notre série consacrée aux nouvelles conditions du travail. Après avoir évoqué le burn-out lundi, l'ubérisation du travail hier, place à l'organisation même de l'entreprise. Quoi de neuf dans le management? Le bonheur, est-ce une idée neuve dans les entreprises? C'est notre question ce matin.
On peut créer un truc qui s'appelle le mur de la gratitude, le wall of gratitude, où on va, à chaque fois que quelqu'un nous fait plaisir dans la journée, lui mettre un petit post-it sur un mur en disant « merci, c'est cool ».
Grâce à la pratique du sport, nos employés ressentent un mieux-être. Ils ont plus d'énergie et cela permet de prévenir de nombreuses pathologies, comme les maux de dos, les douleurs d'épaule et de nuque, ou d'éviter des maladies graves. Il y a donc beaucoup d'avantages.
Cette salle est ouverte 24 heures sur 24, alors dès que j'ai 20 à 30 minutes, je viens ici. C'est bon pour ma productivité.
Pour nous, la devise, c'est attirer et retenir. Nous passons beaucoup de temps à recruter des gens qui sont conformes à notre culture et dès qu'on les entre nos murs, on veut les garder. Nous dépensons beaucoup d'argent à chercher les meilleurs et on veut qu'ils restent heureux chez nous.
Nombreuses sont les entreprises qui ne ménagent pas leurs efforts pour améliorer le quotidien de leurs salariés, certaines allant même jusqu'à embaucher des responsables du bien-être, des Chief Happiness Officers en bon français, un métier venu des États-Unis qui se développe de plus en plus en Europe. Au-delà des gadgets et des caricatures, une réelle promesse, celle d'améliorer la qualité de vie au travail. Ce management par le bonheur, inspiré de la culture start-up et des grandes entreprises de la Silicon Valley, fait des émules un peu partout dans le monde et notamment en Europe. Mais derrière ce soin du salarié, quelles sont réellement les valeurs et la vision du travail portée par ce nouveau management? Les entreprises souhaitent-elles vraiment améliorer le quotidien de leurs salariés ou bien surtout leur productivité? Ces chefs d'entreprise qui promettent bonheur et épanouissement ne sont-ils pas dans le déni des rapports de force nécessairement à l'œuvre entre le travail et le capital? Et quelles sont les initiatives à l'œuvre qui tentent d'inventer de nouvelles formes d'organisation de l'entreprise? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité Fabien Blanchot. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignant-chercheur, directeur du MBA Dauphine Management des Ressources Humaines et puis co-directeur de la chaire Confiance et Management à l'Université Paris-Dauphine. À nos côtés, depuis Lausanne, dans les studios de la RTS, Hervé Lebray. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment également d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de recherche et d'enseignement à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et puis auteur d'un blog, Startup, ce que nous pouvons encore apprendre de la Silicon Valley. Et justement, on verra que certaines choses sont à apprendre, à s'inspirer peut-être, mais en tous les cas, il y a des choses à apprendre de ce modèle-là. On en parlera évidemment. Je vais commencer avec vous, Fabien Blanchot. Quand on parle aujourd'hui d'organisation d'entreprise, on évoque tout un tas de formules, de notions. Alors, on voit passer des choses. Moi, j'en ai appris plein. Le slow management, le management de 2.0, le nouveau management, le people management, le management de la confiance. Est-ce que cette profusion de termes, de formules traduit véritablement une transformation profonde des méthodes de gestion des entreprises, peut-être découlant en partie de l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication? Ou est-ce que finalement, on n'a pas de rupture fondamentale, mais seulement des ajustements et tous ces termes cachent peut-être autre chose? Fabien Blanchot.
Alors, oui, c'est une question importante, intéressante, qui préoccupe le monde des affaires aussi, parce que ces évolutions posent question. Ce qu'on peut dire, je pense, c'est que le management ne disparaît pas. Le management, c'est quoi? C'est toujours la même chose. Et ça, depuis le début du XXe siècle, Henri Fayol nous le rappelait, Peter Drucker aussi, par la suite, et puis bien d'autres. Et puis aujourd'hui, quand on regarde l'ouvrage de management, on retrouve toujours à peu près la même chose.
Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve justement?
Alors, on y retrouve penser le futur, manager, c'est se projeter dans le futur, c'est anticiper, c'est prévoir. Alors, prévoir plus en extrapolant le passé, mais en construisant des scénarios, en faisant de la prospective. C'est organiser, et organiser, ça signifie à la fois diviser le travail et coordonner ce travail. Comment on fait en sorte que le travail qu'on a divisé finisse par nous permettre néanmoins d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est animer, activer les ressources. ressources. Alors ces ressources sont les ressources humaines, bien sûr, sont les hommes, et on va parler des hommes et les femmes, bien entendu, et on va parler de ça aujourd'hui. Et puis c'est contrôlé, et les formes de contrôle peuvent être très diverses. Alors qu'est-ce qui évolue ?
Donc, penser le futur, organiser, animer et contrôler. Voilà finalement les quatre piliers du management.
Exactement.
Les dernières formules là, que j'ai évoquées, on retrouve évidemment ces quatre piliers, ou est-ce qu'on a une rupture fondamentale, une nouvelle philosophie ?
Voilà, alors on va retrouver les mêmes piliers, mais ce qui change, ce qui évolue au cours de l'histoire du management, c'est la manière d'exercer ces différentes activités, la manière de penser le futur, la manière d'organiser, la manière d'animer les hommes et les femmes, et puis la manière de contrôler. Alors ça, on voit des évolutions très significatives et qui sont pas tant liées à une à des innovations majeures qu'à des contextes qui changent.
Hervé Lebray, ces dernières années, il y a de nombreux auteurs qui se sont attachés à montrer les bienfaits du bonheur au travail. Je pense par exemple à l'américain Tony Hsieh, qui est cofondateur de l'entreprise Zappos, qui est une entreprise de vente par internet de chaussures, qui avait écrit l'entreprise du bonheur en 2011. Mais c'est le cas aussi du côté de l'Europe. On a par exemple le Danois Alexander Kierulf, avec un ouvrage intitulé Happy Hour is 9 to 5, qui avait été publié en 2014. Il y a Laurence Vanet ici en France, chef d'entreprise, qui avait écrit Happy RH, le bonheur au travail, en 2013. Comment est-ce que vous comprenez cette multiplication de livres autour du bien-être au travail, et qu'est-ce que nous révèle cette profusion, quand peut-être à la confusion entre sphère privée et sphère publique? Parce que après tout, l'entreprise n'est pas là pour produire du bonheur et pour faire forcément le bien-être de ses employés. Hervé Lebray, on confond un peu les choses là.
Oui, je crois qu'on confond un petit peu les choses, vous avez raison. Dans votre introduction, on a entendu plein de témoignages qui me semblaient un peu caricaturaux. Je pense que le bonheur, il est juste la conséquence ou la corrélation de l'efficacité au travail. Si les gens sont heureux, ils seront plus efficaces. S'ils sont malheureux, ils vont être très inefficaces. Donc on parle de ça. Il y a aussi une perte de beaucoup de valeurs, n'est-ce pas, dans le monde du travail occidental. Moi, j'ai lu beaucoup d'autres livres un petit peu sur ces domaines-là, pour que les gens veulent donner du sens. Et dans la Silicon Valley, il y a toujours eu une culture de la remise en question. C'est de l'innovation plus que du management, la Silicon Valley. Il faut pas oublier que c'est créer du nouveau. Et quand on veut créer du nouveau, ben il faut le faire quand même très très différemment. On peut pas juste contrôler. Tout part du talent. On fait confiance aux gens. Il faut pas oublier que les Américains, c'est des optimistes qui croient en la science, la technologie, et qui croient aussi au talent. Ils font confiance aux gens et ils leur donnent beaucoup d'autonomie et de responsabilité dès le début, en tout cas dans les startups. Le monde des startups est très différent. Et du coup, il y a beaucoup moins de hiérarchie, parce qu'on se dit, si ces gens sont tellement talentueux, on n'a pas tellement besoin de les gérer. C'est un petit peu ça, cette philosophie. On reviendra peut-être.
On y reviendra évidemment. Là-dessus. Fabien Blanchot, sur peut-être cette confusion entre sphère publique et sphère privée. Et si on fait un tout petit peu d'histoire, à quand remonte cette, peut-être, j'allais dire fascination, en tout cas cette profusion des ouvrages autour du bien-être au travail et de cette idée qu'il faut absolument rendre ses employés heureux?
Alors ça s'est sans doute multiplié à partir de la fin à partir du début des années 2010, mais je crois que cette question du bonheur au travail, ou plus généralement de la satisfaction des collaborateurs dans l'entreprise, qui, rappelons-le quand même, constitue une partie prenante importante de l'entreprise et des contributeurs fondamentaux à la création de valeur pour l'entreprise, cette question de la satisfaction des collaborateurs est très ancienne. Elle remonte au début du XXe siècle, elle remonte à Frédéric Taylor, parce que même si on a dénoncé, à juste titre, le taylorisme, parce que au fond, il dépossède les ouvriers de leur savoir-faire, il n'empêche que Frédéric Taylor, quand il a pensait l'organisation scientifique du travail au début du XXe siècle, eh bien, il pensait à la fois l'augmentation de la productivité, mais aussi l'amélioration de la satisfaction et des conditions de travail des salariés, notamment en faisant en sorte que les gestes soient moins difficiles à exécuter pour les collaborateurs.
Mais dans la perspective d'améliorer leur productivité, soyons clairs.
Avec une articulation très forte avec la productivité, puisque c'était évidemment l'objectif premier. Donc le bonheur au travail ou la satisfaction des collaborateurs comme fin en soi indépendante de toute considération économique est sans doute un mythe.
Mais est-ce qu'on ne s'immisce pas un peu dans des considérations éminemment personnelles lorsqu'on fait ça, quand on veut aider à l'accession au bonheur de ses salariés? Et est-ce que finalement on est encore dans le management?
Moi, je crois que oui, tout à fait. Alors, le terme de bonheur me gêne un peu, parce que
Il vous gêne, mais pourtant, il est, pardon d'insister, il est
Oui,
centrale précisément dans les nouvelles, supposément nouvelles techniques de management.
Oui, alors derrière ce terme, en fait, se cache une multitude d'autres concepts comme la qualité de vie au travail, comme évidemment le bien-être, comme la satisfaction, tout simplement. C'est-à-dire, on s'intéresse aux émotions des collaborateurs, à la fois négatives, la souffrance, etc., et puis positives, bien entendu. Et au fond, rien de plus normal quand on conçoit qu'une entreprise, encore une fois, c'est un ensemble de parties prenantes, une coalition d'acteurs, et on doit chercher à satisfaire, à créer un degré de satisfaction suffisant auprès de chacune de ces catégories d'acteurs, si on veut que la coalition se maintienne. Mmh. Donc on ne doit pas penser qu'aux actionnaires.
Je poursuis un petit peu avec vous et ensuite je passe la parole à Hervé Lebret. Sylvaine Perraguin, qui est une psychopraticienne et qui est consultante en entreprise, elle vient de publier un ouvrage qui a été publié au Seuil. Il est titré « Le salaire de la peine, le business de la souffrance au travail ». Et elle y raconte comment en France, mais en réalité c'est le cas dans l'ensemble du monde, on a un véritable marché qui s'est créé autour des risques psychosociaux en entreprise, autour de cette aspiration au bonheur dans l'entreprise et comment les entreprises dépensent énormément pour répondre à tout ça. En vain, dit-elle. Elle parle d'une mascarade qui ne fait pas rimer labeur avec bonheur. Alors, il y a deux questions. Un, est-ce qu'on a une idée de ce que représente ce business, précisément, ce secteur ? Et pourquoi, globalement, ça ne marche pas ? C'est en tout cas le constat qu'elle fait, elle.
Alors, deux éléments de réponse, donc, puisque deux questions. À la première question, je n'ai pas de chiffres exacts, mais quand on va regarder, par exemple, il y a un club des Chief Happiness Officers, donc ces responsables du bonheur entreprise, on se rend compte que parmi les acteurs, il y a beaucoup de consultants. Évidemment, c'est un business en soi, l'accompagnement des fonctions RH dans leurs réflexions et dans leurs actions pour essayer d'améliorer les conditions de travail et le travail des salariés. Alors la deuxième question, dire que c'est pas efficace. Alors c'est vrai que si vous voulez, là on est confronté à un problème qui n'est pas spécifique à cette question, mais qui est un réel défi. C'est peut-on mesurer les effets concrets? Alors oui, on les mesure sur des tas d'indicateurs. On va pas les mesurer ces effets directement sur ce qu'on appelle la bottom line, c'est-à-dire le profit, le taux de profit, parce qu'il y a des tas de facteurs qui influence le profit. En revanche, si on s'intéresse au turnover, c'est-à-dire au taux de rotation du personnel, si on s'intéresse au taux d'absentéisme, si on s'intéresse au climat social, alors oui, on peut mesurer les actions des organisations et bien évidemment, le fait de se préoccuper de ses salariés n'est pas sans incidence.
Alors, j'ai pas trouvé moi de chiffres sur la France, mais en tout cas du côté des États-Unis, ce secteur-là du business du bien-être au travail, appelons-le comme ça, il représenterait environ 10 milliards de dollars pour ce qui est des États-Unis. Hervé Lebret, sur ce business du bien-être au travail et sur ses effets, Hervé Lebret.
Oui, j'étais en train de faire un petit calcul. Ouais. Chez Google, la nourriture est gratuite. Hein. Donc si vous comptez 20 francs par jour, matin, midi et soir, par 200 jours par an et 100 000 employés, ça fait 400 millions de dollars rien que pour Google. Donc ça vous donne une petite idée. Et ils ont fait le calcul en disant qu'ils gagnaient de l'argent avec ça. Parce que comme les gens mangent sur place, qu'ils sont contents d'avoir une nourriture gratuite, ils sont encore plus efficaces. Alors est-ce que c'est inefficace ou pas? Est-ce que c'est de la manipulation? Moi, je suis d'accord avec vous, ça a ses limites. Mais ça, le chiffre de 10 milliards de dollars me paraît pas du tout excessif si on ajoute les coiffeurs, le pressing, les bus gratuits entre San Francisco et Mountain View. Donc on voit bien que tout ça contribue, entre guillemets, au bonheur des employés. C'est une recherche d'efficacité, mais pas manipulatoire, simplement une efficacité qui a été souvent discutée avec les employés eux-mêmes.
Vous parliez de Google, justement, je vous propose d'écouter la directrice du management de Google, c'était en avril 2010.
Le 20% time is an informal methodology. It's not that everybody has.
Le 20% de temps libre est une méthodologie informelle. Il ne s'agit pas pour chacun de passer 4 jours par semaine à son travail, puis le 5e jour de faire autre chose. Il s'agit simplement d'un moyen grâce auquel Google permet aux gens de dire voici ce qui me passionne réellement et je souhaiterais avoir un peu de temps à consacrer pour cela. Et il faut le savoir, de nombreuses innovations découlent de cela. Vous savez, dans mes 20% de temps libre, je vais collaborer à Google Earth et je les aide à des projets. C'est comme ça que le système fonctionne. Ce n'est pas formel, mais c'est mettre en place une organisation qui permet aux gens de se dire combien ils se sentent plus forts.
Voilà, le système des 20% de temps libre, sachant qu'il faut regarder ce qu'il y a à Google derrière ce fameux temps libre. Mais c'est vrai qu'au cœur, Fabien Blanchot, de ces nouvelles méthodes de management, appelons-les comme ça, il y a l'autonomie. Si on met à disposition des travailleurs une multitude de services, des salles de sport, des siestes, des cantines, comme nous disait Hervé Lebray, c'est aussi parce qu'on part du principe qu'ils savent gérer seuls leur emploi du temps et leur volume de travail. L'autonomie, c'est un peu la pierre angulaire, semble-t-il, de toutes ces entreprises qu'on retrouve dans la Silicon Valley et un peu ailleurs, Fabien Blanchot. L'autonomie.
L'autonomie, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donner de la latitude d'action aux collaborateurs sur les moyens de réaliser leur travail et éventuellement, ça existe dans certaines organisations, sur les fins de leur travail, les objectifs à atteindre. Alors pourquoi on laisse de la latitude d'action? Parce que on s'est rendu compte que pour plusieurs raisons, mais pour des tas de raisons. D'abord parce que aujourd'hui, les collaborateurs sont plus les collaborateurs du début du 20e siècle. Ils sont très éduqués, ils ont des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, et si on leur laisse pas la latitude d'action, ils peuvent pas les mettre en œuvre.
Mais ce qu'on dit pas, Fabien Blanchot, c'est que derrière le revers au fond de l'autonomie, c'est la responsabilité, et donc aussi potentiellement de la pression. Quand on vous autonomise, on vous responsabilise, et donc potentiellement on vous crée du stress derrière.
Alors ça, c'est ce qui est certain, c'est que l'autonomie et la responsabilité sont les deux faces d'une même pièce. L'autonomie sans responsabilité, c'est la porte ouverte à toutes les dérives.
Non, mais ça n'existe pas. L'autonomie sans responsabilité, ça n'existe pas dans les entreprises.
C'est très peu courant, et heureusement, parce que ce serait une forme aussi de dérive. On aurait le droit de faire tout et n'importe quoi sans en assumer les conséquences. Vous imaginez ce à quoi ça pourrait aboutir. Puis réciproquement, la responsabilité sans autonomie, c'est pieds et poings liés. Alors évidemment, la responsabilité peut être génératrice de stress, et il y a des collaborateurs qui ne l'apprécient pas. Donc ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas une panacée, mais c'est une attente néanmoins d'un certain nombre de collaborateurs qui veulent à la fois de l'autonomie et des responsabilités.
Hervé Lebray, quand on regarde du côté de la Silicon Valley, l'autonomie, c'est le cœur de ce management moderne qu'on retrouve dans la Silicon Valley?
Oui, c'est le cœur. Il y a une métrique chez Google qui s'appelle et donc plein de startups d'ailleurs qui s'appelle OKR, OKR, objectif et résultat clé. Donc en fait, on donne des objectifs à moyen terme. Et les gens ont une énorme responsabilité. Ils doivent essayer d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Par contre, il n'y a pas tant que ça de stress, parce que si les gens échouent, entre guillemets, pour de bonnes raisons, parce que finalement c'était trop difficile, et comme c'est des gens brillants, s'ils échouent, c'est qu'il y avait une bonne raison, mais ils ne sont pas pénalisés. Ah, ils n'auront peut-être pas le même nombre de stock options, l'incentive financier ne sera pas le même, mais ils n'ont pas forcément peur d'échouer. Donc oui, il y a énormément de responsabilités, mais c'est des gens qui en veulent de ces responsabilités. Sinon, ils vont pas demander à aller chez Google, si vous voulez. Il y a une espèce d'auto-filtre qui se passe pour les gens qui souhaitent travailler là. Et puis, il y a une histoire un peu caricaturale, mais pendant un an, Google a pas eu de management parce qu'ils pensaient qu'il y avait pas besoin. Les gens étaient tellement autonomes qu'ils mettraient pas de management. Puis au bout d'un an, ils se sont rendus compte que c'était pas satisfaisant. Pas parce que les gens réalisaient pas leurs objectifs, mais parce qu'ils avaient besoin, parfois de conseils, parce qu'ils savaient pas tout, et aussi parce que des fois, il y avait des décisions à prendre. S'il n'y a pas de management, c'est que une démocratie horizontale. Il n'y a que des pairs entre eux. Et quand il y a un désaccord, personne ne décide. Donc, le management sert des fois à trancher, et puis des fois à donner des conseils. Donc, à nouveau, tout ça est plein de subtilités. Mais ils ont poussé, en effet, à l'extrême, l'autonomie et la responsabilité. Il n'y a aucun doute.
Cette question que vous venez d'évoquer, Hervé Lebray, savoir s'il faut ou pas avoir du management dans ces entreprises, elle a effectivement été posée au sein de Google. Et à l'époque, au cœur de ces interrogation, il y avait un homme qui s'appelle Bill Campbell. On va l'écouter et ensuite on en reparle.
La force que j'ai insufflée en venant en aide aux chefs d'entreprise ou aux dirigeants de sociétés qui essaient de s'améliorer, ça a été de les écouter et de leur proposer un processus pour parvenir à un résultat. Vous savez, je ne veux pas leur donner des réponses toutes faites. Je sais qu'ils ont leur propre manière de penser et de faire de leur société une grande société. En fait, ce que vous devez faire, c'est leur dire, par exemple, comment être des multiplicateurs, comment ils peuvent obtenir des gens qui les entourent, la connaissance globale de ces personnes. Leur dire que la connaissance de ces gens autour de la table est bien plus importante que la leur. J'essaie de travailler avec eux pour obtenir cela.
Voilà, c'était la voix de Bill Campbell quelques mois avant de disparaître, puisqu'il est aujourd'hui mort. Jean-Baptiste Mallet, est-ce que vous pouvez nous dire qui est cet homme? Parce que visiblement, il a eu une influence très importante sur un certain nombre de grands patrons de la Silicon Valley. Je pense à Steve Jobs, mais je pense aussi à Eric Schmidt, l'ancien dirigeant de Google, justement. Alors, qui est ce Bill Campbell et quelle a été son influence précisément sur l'organisation des entreprises de la Silicon Valley? Hervé Lebré.
Ah pardon, je croyais
c'était
que vous aviez demandé...
Non, c'était pour vous. On va lui passer la parole ensuite, mais on va commencer par vous, parce que c'est un des sujets que vous évoquez dans votre blog, dans un des articles de votre blog. Il n'y a aucun problème, allez-y.
Oui, Bill Campbell, c'est une personnalité très peu connue, dont les gens parlaient régulièrement. Larry Page avait écrit un petit article sur lui, le fondateur de Google, et puis Steve Jobs avait viré tous les membres de son conseil d'administration quand il est revenu aux commandes d'Apple, et il a demandé à Bill Campbell d'être le seul qui resterait. Donc on voit l'importance du personnage. C'était un entraîneur de football américain universitaire qui est rentré dans le monde du business et qui est arrivé avec l'idée qu'il fallait faire confiance aux gens. People first, hein, c'est son mantra. On fait confiance, on écoute, mais toujours pour rechercher la performance maximale. Et il a découvert que le talent, c'est une chose. Et puis, travailler en petites équipes, hein, il a dit, un multiplicateur, c'est les gens autour de vous qui vont vous rendre super efficace. Donc, il écoutait, il a été le coach, hein, les gens l'appelaient le coach, de plus de 1000 personnes dans la Silicon Valley. Il faut imaginer ce que ça veut dire. Et il a aidé les gens à grandir dans le sens positif du terme. Il les a aidés à combattre leurs faiblesses, à aller toujours un peu plus loin. Et c'est une personnalité qui manifestement a marqué les esprits dans cette région. Et un livre vient de sortir sur lui, hein, écrit par Eric Schmidt, donc l'ancien patron de Google que vous mentionniez.
The Trillion Dollar Coach. Et quel a été son rôle précisément dans cette interrogation au sein de Google pour savoir si oui ou non il faut introduire du management?
L'anecdote était amusante. Lui, dès le début, il pensait que c'était une bêtise absolue de ne pas avoir de management. Il est allé voir Larry Page, il a dit « Mais comment sais-tu que tes employés ne veulent pas de management ?» Et il a dit « Mais parce qu'ils sont assez brillants et je le sais. » Il a dit « Bon, on va faire un petit sondage interne, on va se promener dans l'entreprise, tu vas aller les voir, je vais aller les voir, on va leur demander. » Et ils ont demandé, ils ont dit « Non, on veut du management. » Pour les raisons que je mentionnais tout à l'heure, parce que quand il y a une décision, quand il y a un désaccord entre deux personnes qui décident, et puis il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc, et ils ont remis en place le management alors que Larry Page a vraiment résisté longtemps. Et simplement par l'écoute. Hein, par l'écoute, il a amené, parce qu'il amène quand même les gens à faire ce qu'ils pensent être important. Il écoute, mais il a quand même aussi des idées. Il avait des idées très arrêtées sur la manière dont on gère des équipes.
Fabien Blanchot, alors je ne sais pas si vous connaissez cette figure Bill Campbell, mais en tout cas les idées qu'il porte, cette nécessité d'introduire du management, y compris d'ailleurs auprès de salariés qui revendiquent une certaine autonomie, qui sont des salariés extrêmement doués, parce que c'est pour ça qu'ils ont été embauchés dans cette entreprise, à savoir Google. Cette idée-là, et aussi l'autre idée avancée par Hervé Lebré, c'est-à-dire celle de faire au fond de ses employés, de ses salariés, la priorité. Y compris d'ailleurs la priorité même par rapport quasiment aux clients. Hein. Il y a une phrase qu'on entend, quasiment une devise, alors je ne sais pas si elle est vraiment attachée à Google ou plus généralement à la Silicon Valley, c'est « employé first, customer second », l'employé premier et le client en deuxième. Fabien Blanchot.
Oui, j'ai le sentiment qu'il y a confusion des genres. Déjà, le management ne disparaît pas. Qu'il soit délégué aux collaborateurs ou qu'il soit confié au manager, le management ne disparaît pas. En revanche, il y a eu questionnement, et il y a toujours questionnement dans certaines organisations sur le rôle des managers. Les managers, c'est-à-dire ceux qui ont la responsabilité du pilotage, de l'animation, des collectifs de travail. Donc, il peut y avoir débat sur l'existence ou non des managers. En revanche, la question du management n'est pas en cause, n'a jamais été en cause, et même chez Google, on ne remettait pas en cause le management en tant que tel, si ce n'est à travers peut-être les managers. Mais ce sont deux aspects différents.
Alors maintenant, pardon, mais c'est quand même un point important, savoir s'il faut incarner ou non ce management dans des personnes qui en ont la
dans
responsabilité pleine et entière. C'est
mais
pas rien.
Alors, il y a aussi la question de savoir, est-ce que seuls les managers font du management? Bien sûr que non. C'est pour ça que d'ailleurs la figure du leader naît aussi. Le leader, c'est non pas le statut, la fonction, c'est la personne et c'est son rôle dans l'organisation. Et donc on peut être leader sans être manager. Donc il peut y avoir des pilotes, des animateurs, des coachs qui n'ont pas de responsabilité formelle, mais qui ont une très grosse responsabilité informelle. C'est pour ça que le débat est, de ce point de vue-là, légitime. Dans tous les cas, et le deuxième point que je voulais souligner, c'est que même si on supprime les managers, vous voyez, on fait subsister, par exemple, les coachs. ou les accompagnateurs. En fait, c'est un glissement sémantique ou c'est une représentation que l'on souhaite donner du manager, c'est-à-dire un manager qui est moins dans le command and control, c'est-à-dire le fait de donner des instructions puis de vérifier qu'elles sont bien exécutées, mais plus dans l'aide, l'accompagnement, le soutien. Et d'ailleurs, quand vous parliez de employer first,
allez-y.
Oui, quand vous parliez de employer first customer second, qui est le titre d'un ouvrage d'un dirigeant de HCL Technologies, Nayar, qui en fait part du constat que si on veut que les collaborateurs donnent le mieux d'eux-mêmes auprès des clients, il faut que leur manager soit à leur service, soit au service des collaborateurs. Et on va parler aussi de servant leadership, c'est-à-dire, en fait, on inverse la pyramide. C'est-à-dire qu'au fond, finalement, c'est plus le collaborateur qui est au service du manager, c'est le manager qui est au service du collaborateur.
On inverse le lien de subordination. Mais pourquoi quelque part, d'une certaine manière. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça précisément pour faire croire aux salariés qu'il n'y a plus de hiérarchie dans l'entreprise, d'une certaine manière?
Non, mais simplement, c'est parce qu'il y a eu des dérives.
On a cette impression dans les startups. On ne veut plus d'hierarchie, on parle d'horizontalité, il n'y a plus de chef, il n'y a plus.
Oui,
ce qui n'est évidemment pas vrai.
Je crois que l'instrumentalisation des collaborateurs ou la tentative pour leur faire avaler des couleuvres, elle ne dure pas très très longtemps. Non, je pense qu'il y a une autre idée derrière. C'est la dérive du petit chef. C'est tout ce qu'on connaît dans les phénomènes de technocratie où finalement les chefs deviennent oppressants. C'est-à-dire qu'au fond, ils sont encore une fois dans la surveillance et dans le fait de donner des instructions dont on ne sait pas quel est leur fondement. Donc c'est ça qu'on combat, je crois, dans les organisations aujourd'hui.
Et ça marche. Et du coup, ça marche. Je veux dire, quand on inverse justement ce lien de subordination, effectivement, il n'y a plus ces dérives de petits chefs.
Ah, c'est jamais exclu. L'entreprise est une coalition avec des jeux de pouvoir, des jeux d'acteurs, les égos subsistent. Simplement, si on développe une culture dans l'organisation, c'est un certain nombre de principes, de valeurs qui promeuvent cette pyramide inversée, ceux qui vont dériver, vont être mis à l'index. Donc, il y a une pression sociale pour limiter le nombre d'acteurs qui pourraient dériver.
Hervé Lebray, sur cette question de la hiérarchie, peut-être même de l'inversion du lien de subordination.
Moi, je suis d'accord avec Fabien Blanchot. Il y a toujours eu des managers et c'était plutôt une évolution. À cette époque où il n'y avait plus de managers, je crois que c'était Wayne Rosling. Il avait 1000 personnes qui lui reportaient.
Qui est Wayne Rosling?
Malgré tout, c'était le patron du développement technologique. Je pourrais dire une bêtise, mais disons que c'était un des cadres majeurs de Google et il disait, mais moi, j'ai 1000 personnes sous moi, ça n'a pas de sens, remettez-moi des managers. Donc, il faut quand même qu'il y ait des courroies de transmission. Par contre, en effet, c'est plus de petits chefs. C'est pas inversé, hein. Il y a quand même des décisions qui se prennent. Mais il y a une confiance et il y a une transparence qui fait que, quand il y a des histoires de harcèlement sexuel comme il y en a eu chez Google, donc vous voyez que le monde est imparfait, c'est quand même sorti, c'est pas sorti assez vite, ça a encore été trop lent, mais il y a une espèce de mise à l'index radicale des gens qui ne font pas bien leur travail et le petit chef va exister, mais va disparaître plus rapidement chez Google que chez d'autres. Je prends Google comme exemple, mais c'est ces entreprises qui explorent.
Justement, vous prenez Google comme exemple, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les grandes entreprises de la Silicon Valley, les GAFAM comme on les appelle, ont peu ou prou les mêmes méthodes managériales où réellement il y a de grosses différences?
Bon, peut-être Hervé Lebray saurait mieux répondre que moi, mais moi je pense que c'est
très différent. Je vais lui poser la question aussi.
Amazon et Microsoft, qui d'ailleurs sont pas dans la Silicon Valley, on l'oublie, qui étaient à Seattle, dans le nord des États-Unis, avaient des méthodes. En tout cas, moi, quand j'étais étudiant et là-bas, les gens se faisaient virer du jour au lendemain avec des méthodes qui étaient quand même, je parle de Microsoft, qui étaient quand même pas très agréables à l'époque. Et Microsoft avait pas une réputation de management innovant. Par contre, Google, ça a été incroyable. Apple, sous Steve Jobs, les gens avaient un peu peur de Steve Jobs. Donc c'est pas du tout le leadership d'un Eric Schmidt à la Bill Campbell où on fait confiance aux gens. Donc vous voyez que il y a beaucoup de différences. Et chez Facebook, il y a quand même eu de sacrées contradictions, l'absence de transparence avec l'élection américaine. Alors que par exemple chez Google, l'idée de travailler avec la Chine est un débat permanent. Et j'ai entendu cette phrase: Google recherche pas le profit. C'est vrai, ils recherchent pas le profit. Ils recherchent le profit, mais c'est pas la priorité maximale dans le sens où ils décident de pas être en Chine au risque de perdre beaucoup d'argent. Ils font des choix qui sont assez étonnants et inhabituels dans un capitalisme débridé.
Fabien Blanchot.
Non, il y a
la question, originelle.
La diversité. Alors, il y a des chercheurs qui insistent sur les tendances isomorphiques au sein des secteurs. C'est notamment DiMaggio et Powell qui montrent bien cette tendance à l'imitation qui peut y avoir. Donc, évidemment, il y a des tendances quand on est dans un même secteur d'activité à l'imitation, ne serait-ce que pour être recherché la légitimité, parce que si ça a bien fonctionné dans une organisation, alors on nous demande de faire la même chose. Et puis, c'est aussi, on est en concurrence dans l'attraction des collaborateurs, dans la quête de fidélisation, et donc on se doit d'appliquer ce qui semble bien fonctionner ailleurs, en tout cas ce qu'on en apprend. Donc il y a des phénomènes isomorphiques, sans aucun doute. En revanche, il y a aussi de la diversité, et de la diversité liée au fait qu'on n'a pas les mêmes métiers. On n'a pas les mêmes contextes et on voit bien Amazon où le cœur de l'activité sont les entrepôts n'a pas les mêmes collaborateurs, n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes enjeux de créativité que sont ceux de Google. Donc on va avoir des approches managériales vraiment très différentes et qui sont plus traditionnelles sous certains aspects dans les entrepôts d'Amazon.
On va parler dans quelques instants justement d'Amazon avec un nouvel invité, mais d'abord Hervé Lebré. Je vais citer un passage de l'introduction de votre livre parce que j'aimerais qu'on essaye de voir ce qu'il y a derrière l'esprit start-up, l'esprit Silicon Valley, la philosophie Silicon Valley. Vous écrivez la chose suivante. Je crois que les start-up sont nées de la volonté d'individus insatisfaits de leur situation professionnelle ou portés par une vision, une ambition, une passion que leur environnement ne partageait ou ne soutenait pas. La philosophie start-up qu'on retrouve dans la Silicon Valley, c'est donc celle de l'émancipation et du désir de rompre. Mais une émancipation par rapport à quoi ? Qu'est-ce qu'on rejette ? Son patron ? Le modèle entrepreneurial classique, traditionnel ? L'État ? Qu'est-ce qu'on rejette, Hervé Lebré ?
Alors, sans doute une multitude de choses, mais alors si on revient au tout début de la Silicon Valley en 57, parce que ça, j'espère que ça va répondre à la question, Monsieur Shockley, qui était prix Nobel de physique, avait inventé le transistor, a créé une petite entreprise à Palo Alto, il avait des méthodes très très douteuses. Il utilisait le détecteur de mensonges pour être sûr que ses employés ne volaient pas des idées. Et ces 8 de ses employés les plus brillants, qu'on a appelés les 8 traîtres, ont été insatisfaits, se disaient que c'était n'importe quoi d'un point de vue de management, n'importe quoi du point de vue de la philosophie de l'entreprise, et ils sont partis, ils ont créé Fairchild, qui est la première grande entreprise de la Silicon Valley. Donc quand vous êtes insatisfait de votre situation et que vous vous dites « je pourrais faire mieux ailleurs » ou peut-être en interne, c'est ce qui se passe chez Google avec les 20%, si je peux faire mieux et qu'on m'écoute, je reste, si on m'écoute pas, je pars. Donc c'est du passé, faisons table rase. Si ça n'est pas bien, je fais autre chose. Je fais un ordinateur portable avec Apple parce que personne n'y croyait ailleurs, chez Xerox. Je fais de l'internet à la Google parce que je le fais mieux différemment. C'est une volonté d'innover en permanence, de créer du nouveau, sans se poser toujours trop de questions sur l'éthique, le sens des valeurs. Mais c'est ça, je m'émancipe et si on me donne pas les moyens de le faire, je vais le faire ailleurs, par moi-même, dans ma nouvelle start-up.
C'est seulement de l'innovation, c'est seulement de la technique et de la technologie ou c'est aussi peut-être derrière une certaine structure idéologique. On a cette idée quand même que ces grands patrons de la Silicon Valley, ils sont quand même un peu dans la veine libertarienne, on se trompe pas, Hervé Lebré?
Non, moi je suis...
vous avez le droit de nuancer, hein.
Un avis. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que je pense que Fairchild, les fondateurs qu'ont fait Intel après, et Steve Jobs et Wozniak, qui est quand même un hippie, et les fondateurs de Google, il y a Peter Thiel qui est cette vision en effet libertarienne, mais qui est aussi caricaturale. J'ai vécu 2 ans là-bas. Vous avez la même diversité dans la Silicon Valley que vous avez en Europe ou en France, d'un point de vue politique et le même spectre. Non, c'est des gens qui veulent faire des choses. Ils veulent innover. Ils ont très peu de philosophie politique. Ils sont, à la limite, un peu trop apolitiques, à part Wozniak, qui était vraiment un vrai gauchiste, qui distribuait ses actions aux employés quand il n'en avait pas assez. C'est une générosité absolue, mais ils sont très peu politisés. D'ailleurs, ils ont créé des groupes de lobby à Washington très récemment parce qu'ils avaient l'impression qu'ils n'avaient jamais su faire entendre le son de leur voix sur ce qu'ils avaient apporté aux États-Unis.
Fabien Blanchot, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la Silicon Valley est toujours aussi innovante en matière de management ? Est-ce qu'on s'inspire toujours autant des méthodes qui nous viennent de la Silicon Valley, par exemple ici en Europe, ou d'une certaine manière, les pôles d'innovation, les grands pôles d'innovation ne sont plus les mêmes aujourd'hui, et peut-être que nos méthodes de management que nous utilisons ici en France ou en Europe, eh bien nous allons les chercher autre part. L'inspiration vient d'ailleurs. Fabien Blanchot.
Alors, deux éléments. D'abord, j'ai envie de revenir sur cette veine libertarienne à laquelle vous faisiez référence. Je crois qu'il ne faut pas non plus négliger, sans doute, mais il ne faut pas non plus négliger le rôle des métiers, du secteur. On est dans l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance, il faut faire vibrer les cerveaux et les cœurs. Donc, on est nécessairement sur un mode de management qui doit tenir compte des aspirations de ses cerveaux et de ses cœurs. Donc on est nécessairement sur un mode de management qui prend davantage en considération, parce que sinon il n'y a pas de créativité, l'intérêt, les attentes des collaborateurs. Ça, c'est une chose. Alors maintenant, quelles sont les sources d'inspiration du côté de l'Europe? Alors pour ce qui concerne cette fameuse quête de bonheur, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mémoire récent qui a été réalisé par des étudiants du MBA Management des Ressources Humaines qui met en évidence qu'en fait les sources d'inspiration des entreprises françaises, ils ont interrogé 25% des plus de 200 chief happiness officers qu'on retrouve en France. Eh bien, leur source d'inspiration majeure à 80%, c'est les pays nordiques. C'est le Danemark. Et c'est guère étonnant parce que dans les classements internationaux sur le bonheur, d'une manière générale, eh bien, on va retrouver en tête de liste notamment le Danemark et puis les pays nordiques.
Donc, c'est pas Google.
Donc c'est pas, alors Google est cité, mais loin derrière ces exemples danois. Donc ça, c'est très intéressant.
On est avec vous, Fabien Blanchot, ainsi que vous, Hervé Lebray, en duplex depuis la RTS à Lausanne. On parle toute cette semaine de la question du travail et des nouvelles conditions. Aujourd'hui, le bonheur, une idée neuve dans les entreprises. Il y a évidemment une entreprise à laquelle il faut qu'on s'intéresse. On a beaucoup parlé de Google. Il faut qu'on parle d'Amazon. Hein, Amazon qui est devenue la marque la plus puissante du monde. C'est en tout cas ce que nous dit un classement établi par le cabinet Kantar. On va s'intéresser justement à Amazon.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
C'est quelque chose d'important pour nous de se battre pour de meilleures conditions de travail, un salaire décent et un contrat honorable de la part d'Amazon.
Il y a de nombreuses raisons à cette grève. Les conditions de travail ici sont à améliorer, mais aussi les salaires qui ne correspondent pas à ce que nous avons droit. Après tout, nous avons eu un rôle majeur dans le démarrage de cette structure et ce que nous obtenons est peu.
Nous pensons que ce différend pourrait durer un certain temps. Amazon a jusqu'ici montré qu'ils ne sont pas disposés à négocier. Ils sont prêts à parler, mais pas à négocier. Donc, nous préparons une grève illimitée.
Grève, donc c'était en décembre 2015, de 6 des 9 entrepôts allemands d'Amazon, extrait d'un reportage qui avait été diffusé sur France 24, travaillait pour Amazon. On le sait, c'est particulièrement éprouvant. Les employés qui travaillent dans ces entrepôts sont poussés vers toujours plus de productivité avec moult dispositifs qui les contrôlent en permanence, des bracelets connectés, des selfies pour contrôler et collecter les données. Récemment, c'est un nouveau système qui a fait son apparition, un jeu vidéo pour motiver les employés. Bonjour Jean-Baptiste Mallet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, documentariste, auteur de « En Amazonie, infiltré dans le meilleur des mondes » qui était paru chez Fayard, mais aussi « L'Empire de l'or rouge, enquête mondiale sur la tomate d'industrie ». Je le note, vous aviez obtenu le prix Albert Londres du livre en 2018. Vous avez donc réalisé une enquête sur l'entreprise Amazon, vous avez infiltré, vous avez pu donc scruter de près le fonctionnement de cette entreprise. Le Washington Post a révélé il y a quelques jours comment la firme de Jeff Bezos avait introduit le jeu vidéo dans le quotidien de ses employés. C'est une expérience qui est menée dans 5 entrepôts aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Donc pour les motiver, eh bien leurs tâches sont retranscrites en jeux vidéo à travers des courses de petites voitures, des courses de dragons, des constructions de châteaux en équipe et que sais-je encore. Et puis à chaque fois qu'un code-barre est scanné ou qu'un colis a été envoyé, eh bien le salarié gagne des points, il avance dans son jeu, il peut même éventuellement gagner des petits goodies, vous savez, ces petits autocollants, ces t-shirts et autres pins. C'est ce qu'on appelle gamifier le travail. Game venant du mot évidemment jouer, une manière de rendre tout cela supposément ludique. Que vous inspire, Jean-Baptiste Mallet, vous qui avez fait cette plongée au cœur d'Amazon, cette gamification du travail chez Amazon ?
Ben, je crois que ça s'appelle tout simplement de l'endoctrinement. Alors, c'est pas totalement neuf chez Amazon, parce qu'il y a déjà des classements en fait de travailleurs qui sont réalisés. C'est le cas dans beaucoup d'entrepôts en Europe aujourd'hui. Vous avez ce qu'on appelle les top performers, hein, mais ça, on a ça dans d'autres entreprises, le meilleur employé du mois, le meilleur ouvrier. En fait, ils poussent cette logique jusqu'à ses extrémités en bénéficiant en fait du fait, avec ce jeu, que la main-d'œuvre est souvent très jeune. Il y a un turnover impressionnant chez Amazon, y compris dans les entrepôts français. On reste en général 2 ans et demi, 3 ans, même quand on est en CDI. Pour une raison qui est simple, c'est que le corps ne peut pas suivre les cadences qui sont imposées. Et Amazon amplifie d'ailleurs ce turnover, notamment en France, avec un programme qui s'appelle The Offer et qui propose en fait de donner de l'argent aux travailleurs au bout de 2 ans et demi, 3 ans, dès qu'ils sentent qu'ils sont un peu fatigués en fait, ou déprimés, démotivés.
Donc on provoque leur départ. On provoque leur départ contre de l'argent, quoi.
Absolument. Contrairement à ce qu'ils prétendent auprès des élus et des politiques lorsqu'ils ouvrent un entrepôt, Amazon n'a pas vocation à créer de l'emploi durable. Ce que veut Amazon dans ses entrepôts, c'est une main-d'œuvre jeune, dont on puisse extraire rapidement la force de travail et qu'on va en fait presser comme un citron, jeter et remplacer.
Mais sur cette gamification, il y a évidemment, bien sûr, la question de la productivité. Vous nous l'avez dit, c'est pour peut-être les pousser à encore plus de productivité. Mais est-ce que c'est pas aussi peut-être pour leur faire oublier que leur travail est difficile et un peu répétitif? Il y a peut-être aussi un peu de ça pour les conserver pour le coup un petit peu aussi, non?
En fait, ça synthétise, ça hybride deux notions très importantes dans les entrepôts Amazon. C'est à la fois les techniques en fait de travail. Hein. Amazon a réemployé le 5S, les techniques de management de l'industrie automobile japonaise dans ses entrepôts. Donc tout ça
Qu'est-ce que c'est, le 5S? Qu'est-ce que c'est?
Le 5S, c'est une manière de rationaliser en fait les tâches au sein de l'entrepôt qui est utilisée par les industries automobiles japonaises, que Amazon a réemployé en fait avec son infrastructure informatique qui lui permet d'organiser le travail. Et en même temps, Amazon, c'est aussi une réinvention du paternalisme avec la possibilité de venir quelques fois par an déguisé au travail. On offre des bonbons, on organise des petites tombolas, des concours, on oblige le tutoiement dans l'entrepôt. En fait, il y a tout un néo-paternalisme qui est inventé, et le 5S, donc la rationalisation des tâches plus le néo-paternalisme d'Amazon, ça peut donner eh bien, ce genre de gamification, là, cette introduction du jeu dans les entrepôts, mais qui, selon moi, n'est qu'une forme d'endoctrinement au travail et qui va fonctionner pendant quelques temps, mais généralement, on s'aperçoit que dans les entrepôts, les travailleurs eux-mêmes ne sont pas dupes, en fait.
Ils ne sont pas dupes, mais en même temps, Jean-Baptiste Malet, vous parlez de réinvention du paternalisme, vous parlez d'endoctrinement. Si ça ne marchait pas du tout et que c'était seulement ridicule, un petit peu comme on le pense là ce matin, il ne le ferait pas. Donc ça veut dire que quand même, un certain nombre de travailleurs rentrent dans ce jeu et acceptent d'une certaine manière ces méthodes de management. Sinon, ils ne les appliqueraient pas si ce n'était pas du tout efficace.
Oui, je pense pas que ce soit ridicule. Hein. Je pense que c'est une manière d'organiser le travail dans les entrepôts qui est celle d'Amazon. Je ne porte pas de jugement moral.
Vous avez raison. Je faisais référence, voilà, à cette idée de gamifier le travail et donc de transformer votre travail en petit jeu de voiture ou de dragon. Ça paraît un tout petit peu ridicule. Mais après, vous avez raison. Pas de jugement de valeur.
Ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup d'employés qui entrent dans l'entrepôt, j'ai rencontré notamment des femmes qui ont travaillé à la caisse de supermarché, qui m'ont dit, quand elles sont arrivées chez Amazon, elles avaient des paillettes dans les yeux. Et beaucoup de travailleurs, quand ils arrivent chez Amazon, quand ils voient ce néo-paternalisme, ont des paillettes dans les yeux, y compris ceux qui deviennent ensuite syndicalistes. Par contre, ils déchantent parce qu'ils réalisent rapidement, en fait, qu'il s'agit d'un vernis, et je vais reprendre les propos d'un syndicaliste que j'avais rencontré à Saran, hein, dans un entrepôt français. Il me dit, quand on arrive, on a le rêve américain, et puis on comprend vite qu'on est dans le cauchemar chinois. Je crois que ça synthétise bien ce qu'est Amazon, en fait, une grande promesse, la grande promesse du libéralisme, la création des emplois, l'aventure, la Silicon Valley. En réalité, eh bien, ça se fait dans un cadre qui est simple, qui est celui du capitalisme. Donc il s'agit d'extraire, eh bien, tout simplement la force de travail des travailleurs pour construire une infrastructure logistique qui est déjà la numéro une au monde, en fait, puisque Amazon est le numéro un mondial de la vente en ligne.
Vous restez avec nous, Jean-Baptiste Mallet. Je voudrais entendre nos deux invités, Fabien Blanchot d'abord ici à Paris, ensuite Hervé Lebray depuis Lausanne, sur ce management à la Amazon, sur cette tendance aussi à gamifier le travail. Je remets évidemment ce terme entre guillemets, c'est-à-dire cette idée de transformer son travail dans un espace, un cyberespace supposément ludique. Fabien Blanchot.
Alors d'abord, le ridicule peut exister en entreprise. Donc c'est pas incompatible avec le déploiement d'un certain nombre d'actions dont on pense qu'elles peuvent être efficaces, puis qui s'avèrent idiotes ou inefficaces ou contre-productives. Ceci étant dit, dans le cas particulier qui vient d'être cité, pourquoi pas cette dimension ludique. Mais le risque, c'est qu'elle soit effectivement un cache-misère, parce que touche-t-on fondamentalement aux conditions de travail ? Et touche-t-on fondamentalement au contenu du travail ? Non, pas du tout. Donc on voit au fond finalement que l'idée de vernis qui était évoquée à l'instant, je la partage pleinement. On touche pas aux fondamentaux qui fait qu'on peut réduire la souffrance au travail. De la même manière, on voit bien qu'on demande de plus en plus de productivité, mais qu'on paye au lance-pierre. C'est-à-dire qu'au fond, on retrouve au fond les vraies tensions qu'on retrouve dans l'organisation depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que pour créer de la valeur, on a envie que tout le monde s'y mette. Évidemment, et donc on essaye de mettre en place des dispositifs qui réunissent et qui donnent envie de fournir des efforts chez tous. Et puis en même temps, après, quand il s'agit de répartir la valeur, les rapports de force reviennent sur le devant de la scène. C'est-à-dire que les salariés, on va leur demander de fournir des efforts, mais le retour sur investissement pour eux, il va être très très faible. Donc voilà, on va retrouver ça un peu chez Amazon, je pense. En tout cas, c'est ce que c'est ce que suggèrent aussi non seulement les propos qui viennent d'être tenus, mais aussi un rapport Syndex récent qui a été réalisé sur Amazon dans l'est de la France et qui laisse penser que, à la fois en termes de salaire et en termes de conditions de travail, le compte n'y est pas.
Hervé Lebray, Amazon, seulement du vernis, mais en réalité, on ne touche rien à l'organisation du travail.
Je crois que c'est le problème du monde du travail depuis peut-être une vingtaine, une trentaine d'années, la perte de sens pour des gens qui sont des semi-esclaves. Le mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'il représente un peu ça. Et quand vous allez dans des régions où il y a eu beaucoup de chômage, les gens, s'ils quittent leur travail chez Amazon, ils peuvent pas trouver ailleurs, donc ils se retrouvent dans une situation à accepter des situations aberrantes, voire ridicules, comme vous le disiez à l'instant. Quand je préparais cette émission, un de mes collègues m'a rappelé qu'il y a un très bel article des Échos qui est sorti, qui s'appelle la révolte morale de la Silicon Valley. Même dans la Silicon Valley, il y a des gens qui se sont révoltés des fois en disant, mais regardez la condition de travail des gardiens ou des serveurs des gardiens qui font la sécurité des entreprises ou les serveurs de restaurants ou les chauffeurs de bus. Peut-être qu'on devrait regarder la condition de ces gens-là. Être mexicain à San Francisco avec la gentrification et l'augmentation des prix, c'est très compliqué. Donc le monde capitaliste, il est à peu près le même partout. Maintenant, je crois qu'on peut pas comparer un employé dans un entrepôt d'Amazon et un jeune développeur qui a eu son doctorat à Stanford et qui va avoir un très bon salaire chez Google. On parle de deux situations extrêmement différentes, malheureusement.
Jean-Baptiste Mallet, la question du syndicalisme et des grèves, parce que j'évoquais tout à l'heure, avant d'échanger ensemble les grèves qui avaient eu lieu en Allemagne en 2015, en fait, en réalité, ces derniers mois, il y a eu d'autres grèves dans certain nombre de sites en Europe, notamment en Allemagne il y a quelques semaines, en Espagne l'hiver dernier, elles sont le signe de quoi ? D'une forme de dégradation des conditions de travail dans ces entrepôts, ou peut-être au contraire une forme d'émancipation aussi des salariés qui seraient désormais en capacité de s'organiser et de mener le combat social. Comment vous voyez les choses, Jean-Baptiste Mallet ?
Alors moi, j'ai couvert certaines de ces grèves. J'ai rencontré les travailleurs allemands. Je suis également allé en Italie il y a un an à peu près pour couvrir une grève. Il faut savoir que l'emploi logistique en Europe représente de plus en plus d'emplois ouvriers. En France, on est à pratiquement 13% de l'emploi ouvrier par la logistique. Il y a effectivement chez Amazon des syndicats qui sont en train de se structurer, de se rassembler, mais il faut voir qu'ils font face en fait à une limite. Je l'ai abordé tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a un turnover impressionnant chez Amazon, mmh. et les syndicalistes peinent à trouver des relais. La jeunesse en fait qui travaille chez Amazon est souvent dépolitisée, elle n'a pas de culture syndicale, et donc on a des soubresauts, notamment en Allemagne, hein, qui n'est pas un pays réputé pour ses syndicats révolutionnaires, mais qui s'est fortement mobilisé tout simplement parce que Amazon arrive avec ces grilles américaines, hein, ces grilles maison, et parfois se met en délicatesse avec le droit du travail dans les pays européens où elle est implantée. Donc en Italie, les syndicats ont réussi à imposer à Amazon une sorte de convention collective, mais on s'aperçoit que souvent, et c'est le cas notamment en France, Amazon peut porter atteinte au droit du travail, et ce n'est pas toujours suivi des faits. Il y a des choses très très bizarres, hein, qui se passent chez Amazon. J'ai par exemple documenté dans un article qui a été publié dans l'Humanité, le fait que les syndicalistes en France se sont fait subtiliser un ordinateur de travail dans lequel il y avait des données confidentielles. C'était soi-disant un ordinateur qui avait été touché par un virus informatique. Ce virus informatique qui, dans l'entreprise, n'a concerné que l'ordinateur des syndicalistes. Eh bien, vous voyez, un fait aussi grave que celui-ci n'a pas été suivi de conséquences. Ça n'a pas forcément été repris par la presse, par les médias. Et donc, Amazon...
Et donc ça veut dire qu'Amazon ne respecte pas le droit syndical et qu'on laisse faire.
Et disons qu'Amazon est extrêmement doué pour organiser un lobbying. Ils travaillent quotidiennement leur réseau de politique, que ce soit au niveau des préfectures, des parlementaires, au niveau de Bruxelles. Ils ont une force de frappe au niveau des lobbyistes qui est assez impressionnante. Et donc, à chaque fois qu'ils ouvrent un nouvel entrepôt, ils proposent aux politiques de venir prendre un bain de foule en annonçant des créations d'emplois. Là, bientôt, on aura un entrepôt qui va être inauguré à Brétigny. Et vous verrez, lors de l'inauguration de cet entrepôt, des politiques venir se féliciter de la création d'emplois. En réalité, ces emplois créés chez Amazon en détruisent dans le commerce de proximité. Tout ça est établi par des rapports. On sait qu'à chaque fois qu'on crée un emploi dans la vente en ligne, eh bien, en fait, c'est des emplois qui vont être détruits dans le commerce de proximité. Donc, c'est une histoire de vase communicant et, au fond, on ne crée pas d'emplois. Et puis, il y a une dernière...
En revanche, on le précarise.
Effectivement, on le précarise. Et puis, il y a une dernière dimension à prendre en compte, c'est que on va de plus en plus nous vanter l'automatisation dans les entrepôts logistiques. Ça sera le cas à Brétigny, puisque Amazon va utiliser à peu près 3000 petits robots Kiva System, qui sont des petits robots qui roulent sous les étagères et qui transforment le travail. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en fait, c'est simplement la physionomie du travail qui va évoluer. Ouais. Ça ne ressemblera pas à des usines automobiles entièrement aseptisées, où on voit pratiquement plus de travail humain. En réalité, il y aura encore 1000 travailleurs qui vont avoir des tâches qui vont être encore plus pénibles, parce que c'est aussi ce que peut engendrer l'automatisation. Ça va accroître encore la pénibilité du travail, parce que les gestes seront toujours les mêmes. Et donc, une classe qui travailleurs qui devient de plus en plus invisible, malheureusement.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste Mallet, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, En Amazonie, infiltré dans le meilleur des mondes, qui était paru chez Fayard. Et puis peut-être un petit rectificatif, parce que lundi, on évoquait la question du burn-out et la difficile reconnaissance de ce phénomène. On parlait là de précarisation et d'emploi difficile. Donc, une difficile reconnaissance à la fois par l'OMS, qui se refuse toujours de la faire rentrer dans la classification internationale des maladies, mais aussi par la loi française, puisqu'il y a un projet de loi en ce sens qui avait été rejeté en février 2018 par l'Assemblée nationale. On a reçu un message d'une auditrice d'une association qui s'appelle l'association France Burnout, qui regrettait que dans l'émission de lundi, on n'ait pas évoqué le fait qu'il existe un processus par lequel la CPM, la Caisse primaire d'assurance maladie, peut éventuellement reconnaître le burnout comme maladie professionnelle sous certaines conditions. Ce qui est une information effectivement tout à fait utile pour les personnes qui seraient concernées, mais omettre cette information, c'était pas une prise de position, c'était simplement une lacune qui est désormais comblée. Merci, un grand merci à nos invités, Fabien Blanchot qui a été avec nous ici à Paris, et Hervé Lebray depuis la RTS. Je salue nos amis de la RTS à Lausanne. On poursuivra demain notre série consacrée au travail. Pour l'heure, c'est Brice Couturier, 11h53.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et ce matin, vous allez nous parler d'attention, parce que nous souffrons tous d'un problème d'attention, mais c'est pas une grande nouveauté. En tout cas, c'est ce que nous dit une historienne américaine.
Et si nos étudiants, l'œil et les deux pouces rivés sur leur portable pendant les cours, avaient des choses à apprendre des moines et des nonnes de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge en matière d'attention et de concentration intellectuelle ? Jamie Craner est une historienne américaine spécialiste de l'hagiographie de l'époque mérovingienne qui applique à son objet d'étude les sciences cognitives. Elle est persuadée que nos problèmes de distraction ne sont pas nés avec l'apparition des outils numériques. Nos cerveaux ne peuvent pas être si différents après tout de ceux de nos ancêtres des 5e, 6e et 7e siècles. Tenez, au 5e siècle, lorsque se formèrent les premières communautés monastiques chrétiennes en Europe et sur le pourtour de la Méditerranée, leurs membres exprimèrent très vite leur frustration face aux distractions qui les assaillaient lorsqu'ils s'asseyaient pour lire, qu'ils se levaient pour chanter ou s'agenouillaient pour prier. Ils se plaignaient d'être sans cesse distraits par des impressions fugitives, l'envie de regarder par la fenêtre, le chant d'un oiseau, une soudaine envie de manger ou bien des désirs sexuels. Parfois, ils accusaient le diable de venir les tenter et les détourner ainsi de leurs devoirs. D'autres fois, ils déploraient le rôle des instincts corporels. Mais ils se concentrèrent rapidement sur ce qui sembla déterminant. L'esprit semble conduit par des incursions de hasard, constatait Jean Cassien au 5e siècle. Après avoir voyagé à travers le Moyen-Orient, de Bethléem à l'Égypte, en passant par Constantinople, Johannus Cassianus, c'était son nom, reçut la mission de fonder une abbaye à Marseille, Saint-Victor. Saint-Victor, on lui doit une œuvre importante, en particulier les institutions cénobitiques, destinées à organiser la vie des moines et des nonnes obéissant à sa règle. Cela se passait dans les années 420, écrit Jamie Craner, mais si Jean Cassien avait vu un smartphone, il aurait prévu notre crise cognitive en un clin d'œil. Le job des monastères était de se concentrer sur la communication avec le divin et d'améliorer la qualité des âmes. Méditer, contrairement à ce qu'on croit parfois aujourd'hui, ne consiste pas à laisser vagabonder son esprit. Pour les moines et les nonnes, méditer exigeait, selon Jean Cassien, un « mens intentus », un esprit tendu comme un arc, une attention intense, ce qui supposait de tenir compte de la faiblesse naturelle du corps et de l'esprit, et donc de travailler à les plier l'un et l'autre à la tâche exigée d'eux.
Alors comment brise ces ordres monastiques, pensait-il, ces rapports entre d'un côté le corps et de l'autre l'esprit ?
Eh bien, les connexions entre le corps et l'esprit étaient parfaitement prises en compte à cette époque. Philosophes et théologiens avaient été bien conscients que le corps exprimait des besoins de toutes sortes et que l'esprit, sous l'influence de l'imagination, est prompt au vagabondage. Aussi, la règle monastique passait-elle d'abord par la renonciation. Famille, propriété, petites préoccupations quotidiennes. L'alimentation était restreinte au strict minimum et l'activité sexuelle évidemment proscrite. L'activité manuelle, par contre, obligatoire. Mais on imagina également à cette époque des solutions au manque d'attention qui sembleraient étranges aujourd'hui. Les moines et les nonnes étaient en effet encouragés à dessiner des personnages destinés à renforcer leurs capacités mnémoniques et méditatives. Ils devaient donner forme à leurs idées, les incarner dans des dessins, associer ainsi un concept à une figure, permettait non seulement de la mieux comprendre, mais de le retenir avec plus de sûreté. On encourageait l'imagination, mais en la canalisant. Cela allait de l'ange classique avec ses fines ailes à des représentations beaucoup plus sophistiquées, comme ces arches à niveaux multiples sur lesquelles on s'habituait à placer, afin de les y retrouver, des systèmes ordonnés d'idées reliées entre elles. Un sujet comme, par exemple, tenait la loi naturelle, pouvait être représenté par un arbre portant 8 branches, chaque branche portant elle-même 8 fruits, représentant ainsi les 64 différentes idées logiquement associées à celles de loi naturelle. Il n'était pas question de représenter physiquement ces éléments sur des parchemins parce que les parchemins étaient trop rares et trop coûteux pour être utilisés de cette manière. On faisait des gribouillages. C'était plutôt des techniques mentales destinées à fournir à l'esprit ce dont il est friand, soit des formes esthétiques intéressantes à partir desquelles organiser les idées dans des structures logiques. J'enseigne les techniques cognitives médiévales à mes étudiants de première année, conclut Jamie Craner, et c'est la matière qu'ils préfèrent. La construction de dispositifs mentaux complexes leur donne un moyen d'organiser et ainsi d'analyser le matériel dont ils ont besoin pour leurs autres cours. Ce processus occupe aussi leurs esprits avec quelque chose de concret et de captivant. La concentration et l'esprit critique ne sont plus ressentis comme un grand effort, mais comme un jeu.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.